Bonjour à tous, écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure du journal régional présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Evan, bonjour à tous.
Au sommaire des infos de ce jeudi 4 janvier 2018, notre coup d'œil dans le rétroviseur continue. En 2017, une opération de prévention et de sécurité a eu lieu au collège de Castellane. Sur Gap, la fondation Edith Selzer organise des cafés aidants. Notre reportage met l'accent sur ses services rendus. C'est une exposition dont nous parlerons à Manosque et qui est toujours accrochée sur nos murs. Louaï Barakat est un reporter syrien, demandeur d'asile. Il a fui Alep, sa ville dévastée par la guerre. Son interview est poignante. Enfin, nous terminerons sur une note plus légère et festive. En juillet dernier, la grande boucle passée par les Alpes du Sud, une arrivée à Serre Chevalier et l'Izoard ont marqué l'été sportif. Les collégiens de Castellane sensibilisés à la sécurité.
Opération de sensibilisation pertinente au cœur du collège de Castellane. Avec les différents services de l'État et à l'intérieur des classes, il fut question de harcèlement, de bizutage, violence, raquettes et autres dangers liés à l'usage d'Internet. Notre collègue Olivier Mouly a assisté à cette séance très utile début octobre.
Prévention et sécurité au collège de Castellane.
Du 11 au 14 octobre s'est tenue la 5e édition des rencontres de la sécurité intérieure dans les Alpes de Haute-Provence. L'occasion pour les citoyens de rencontrer les femmes et les hommes chargés d'assurer leur sécurité au quotidien, comme dans les situations exceptionnelles. Sécurité intérieure, lutte contre la délinquance, aide aux victimes, sécurité civile, lutte contre les incendies et catastrophes, premier secours, sécurité routière, etc. À Castellane, la journée de vendredi, animée par la gendarmerie nationale et en présence du sous-préfet Duverne, a été consacrée aux différentes problématiques de sécurité du quotidien auprès des jeunes du collège. En fin d'après-midi, deux thèmes importants ont été traités et présentés par les gendarmes de Castellane. Les violences scolaires, harcèlement, violences verbales, physiques, psychologiques, raquettes, bizutage et la cybercriminalité. Au micro d'Olivier Mouly, nous entendrons d'abord Christophe Duverne, sous-préfet de l'arrondissement de Castellane, puis le capitaine Laurent Ponce, commandant la compagnie de gendarmerie de Castellane.
Nous inscrivons dans ce qu'on appelle les journées de la sécurité intérieure, qui ont lieu une fois par an à peu près à cette période, et qui permettent de rencontrer les professionnels et les bénévoles qui interviennent dans le milieu de la sécurité. Donc les gendarmes aujourd'hui, mais également des policiers nationaux, des sapeurs-pompiers, des secouristes ou des bénévoles dans la question par exemple de la sécurité routière ou autre.
Aujourd'hui, les interventions étaient sur à la fois les violences et aussi sur la cybercriminalité.
La semaine de la sécurité intérieure dure 4 jours partout en France et dans notre département. Un programme très intéressant, parce que de mémoire, plus de 25 actions ont été organisées dans tout le département. De moments organisés, par exemple, par les sapeurs-pompiers sur des gestes de secourisme. Et ici, à Castellane, aujourd'hui, les gendarmes ont proposé d'intervenir auprès des différentes classes pour les sensibiliser sur les violences scolaires, violences intrafamiliales, les questions de harcèlement, de raquettes, et également tout ce qui touche aux dangers d'Internet, parce que nous sommes dans une société où les nouvelles technologies impactent les uns et les autres, et particulièrement nos pré-ados et nos ados.
On vit dans une région où il y a peut-être moins de monde, ils ont peut-être une pression moins grande que dans les grandes villes.
Alors tout à fait, c'est vrai que souvent on dit les dangers sont plus en ville parce que il y a plus de problématiques urbaines, peut-être plus de délinquance et autres. Donc c'est vrai que nous sommes sur un territoire qui est relativement préservé, mais il n'empêche que le danger peut se présenter partout, et notamment tout à l'heure, comme vous assistiez également à la présentation, la question de la fugue. Quand on est mineur, des fois on a des problématiques, on a peur, une mauvaise note, de l'annoncer aux parents ou d'autres problématiques personnelles, et on va fuguer. Et ensuite, c'était bien de pouvoir échanger avec les gendarmes pour rappeler que la fugue, effectivement, c'est une mise en danger. Le mineur se met en danger et qu'il est toujours plus intéressant d'en parler à des adultes, de confiance. Ça peut être un enseignant, ça peut être une infirmière scolaire, ça peut être également des gendarmes. Et l'idée est vraiment de pouvoir en parler. Donc ce qu'il faut retenir de ces journées aussi, c'est la responsabilité. C'est, je l'ai rappelé tout à l'heure quand je suis intervenu en début de séance, c'est effectivement le bien vivre ensemble. C'est pouvoir partager, être solidaire et se respecter les uns et les autres. Et je pense que le but de ces journées aussi de sensibilisation, c'est de dire sur une communauté comme le collège, mais voilà, on est différent, mais par contre, il faut se respecter, il faut être solidaire les uns des autres.
Capitaine, aujourd'hui, une journée de prévention auprès de jeunes qui vivent dans un environnement peut-être, disons, une petite structure par rapport aux grandes villes, et en fait, les mêmes problèmes existent.
Journée importante, oui, parce que ça permet effectivement de faire passer des messages de prévention, hein, qui est une mission aussi importante de la gendarmerie. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de zone préservée, que ce soit en petite structure ou en grosse structure. Les enfants peuvent être confrontés à certains dangers, à certains problèmes de violence qui sont liés à des comportements individuels ou à des risques sur Internet ou des choses comme ça, et ce qui est notre action aujourd'hui, quoi.
Alors on le voit bien, une nouvelle fois, c'est la parole qu'il faut libérer en premier.
Tout à fait. Le dialogue, je pense que c'est la base d'une vie en communauté. Et la plupart du temps, on se rend compte que les problèmes sont liés déjà au manque de dialogue, au fait de se retourner vers soi-même. On connaît plus son voisin, on connaît plus rien. Et donc, il y a ce manque, on va dire, de civilité, hein, de civisme. Alors qu'on explique justement que rétablir un dialogue, parler de ses problèmes, en ce qui concerne les enfants, aux adultes, ça peut permettre de régler un bon nombre de problèmes qu'ils rencontrent. On se rend compte justement que la chance qu'on a d'être dans un secteur comme le secteur de Castellane, on a encore des voisins qui se connaissent. On est là justement, en ce qui nous concerne, pour développer le contact avec la population. Le rôle de la gendarmerie, c'est réellement d'aller au contact des gens, hein, pour que les gens aient confiance aux gendarmes. Et on ne peut être efficace dans notre action que si la population adhère, a confiance en l'institution. Et c'est pas aux gens d'aller vers nous, c'est à nous d'aller vers eux.
Ce que vous avez évoqué en début de présentation, vous avez rappelé aux enfants qu'en fait, vous êtes là pour protéger.
C'est la première mission de la gendarmerie, c'est la protection effectivement des personnes et des biens. Donc ça va par des actions de prévention, des actions de surveillance, ça va par du contact. On fait tout justement pour aller au contact de la population, ça va aussi par la visibilité de notre action. Le gendarme est là pour se montrer, hein, puisqu'il est là pour rassurer les gens avant tout. Les militaires qui sont intervenus au sein du collège, ce sont des militaires de la compagnie Castellane. Ce sont des militaires qui tous les jours sont sur le terrain. Hein, ce ne sont pas des gens qui viennent d'état-major ou pour délivrer un message. Ce sont des gens, donc l'adjoint chef Racine, qui a dirigé l'ensemble de la journée, qui est commandant d'unité, hein, qui commande une brigade territoriale. Et donc ce sont des gens qui sont, et des militaires, qui sont vraiment au contact de la population, qui sont confrontés tous les jours aux problématiques et qui sont en mesure effectivement de répondre à toutes les sollicitations parce que ce sont des gens de terrain.
Le Café des Aidants prend de l'ampleur dans les Hautes-Alpes.
Plusieurs communes bénéficient de ces temps de rencontres très utiles à ceux qui s'occupent de personnes dépendantes à domicile. Une initiative de la Fondation Edith Selzer avec le soutien du département des Hautes-Alpes, de l'Agence régionale de santé et l'Association française des aidants, des moments d'échange, de rencontres et qui sont propices aux conseils. Ophélie Feta a interviewé une représentante de la plateforme Selzer en mars dernier à Gap.
Une action utile, le Café des Aidants.
Afin de soutenir les personnes qui aident un proche en situation de dépendance, la plateforme Selzer, avec le concours du Conseil départemental des Hautes-Alpes et l'Agence régionale de santé, a souhaité mettre en place des Cafés des Aidants. Après ceux de Briançon, Embrun, Gap, Serres, c'est au tour de Saint-Jean-Saint-Nicolas d'avoir le sien. Ces cafés s'inscrivent dans une volonté d'accompagner les aidants, quelle que soit la situation de la personne accompagnée, dépendante du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Animé par une psychologue et un travailleur social, ce temps café réunit les personnes concernées autour d'un thème, comme par exemple aider un proche au quotidien, ou bien encore que signifie être aidant. Ces réunions permettent d'échanger conseils et expériences et d'éviter l'isolement. Cet espace de parole est labellisé par l'Association française des aidants qui milite pour la reconnaissance et la place des aidants dans la société. Il s'inscrit dans un réseau national qui comprend à ce jour 79 cafés des aidants partout en France. Les prochains cafés se dérouleront à partir du 6 avril et tout au long de ce printemps. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Inès De Vestel de la plateforme Seltzer au micro d'Ophélie Feta.
La plateforme Seltzer d'accompagnement des aidants a pour mission d'accompagner, de soutenir les aidants et on propose des accompagnements individuels et des actions collectives sur tout le territoire des Hautes-Alpes pour soutenir ces aidants.
Il y a eu des ateliers santé il y a peu de temps qui se sont terminés, qui ont eu un vrai succès, c'est ce que vous venez de me dire, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Des ateliers santé avec une soirée théâtre qui s'est déroulée le 10 mars et s'en sont suivis 3 ateliers santé autour de la santé physique, psychologique et sociale.
Prochain rendez-vous du Café des aidants, c'est quand ?
Alors, le tout prochain rendez-vous, ce sera le 4 à Gap, pour le Café des aidants de Gap. Et surtout, on met en place à partir du 6 avril, donc de jeudi prochain, un nouveau café dans le Champsaur et Bad-Goldmar, à Pont-du-Fossé.
Qu'est-ce qui va se passer lors de ce Café des aidants ?
Alors, le Café des aidants, c'est une fois par mois et c'est un lieu où les aidants peuvent venir se rencontrer, faire des échanges d'expériences, s'amener des solutions entre eux. Ils sont co-animés par une psychologue et un travailleur social et on échange autour d'une thématique particulière. Pour le premier café dans le Champsaur, la thématique sera du coup très générale, donc être aidant.
Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire pour ce café ?
Alors pour les cafés des aidants, il n'est pas du tout nécessaire de s'inscrire. Vous êtes les bienvenus entre 14h et 16h pour Gap et entre 15h et 17h à Pont-du-Fossé. Voilà, la première consommation est offerte et il n'y a pas besoin de s'inscrire.
Et ça se trouvera dans quel lieu ?
Alors à Gap, ça se fait 8 rue Carnot au café du Highlander et à Pont-du-Fossé, ça se fait au poste des tentes.
Pour avoir plus de renseignements, avez-vous un site internet ou une adresse mail ou téléphone ?
Oui, alors pour le sud du département, vous pouvez me joindre moi, du coup Inès De Vestel, la coordinatrice, au 06 75 75 76 68. Nous avons aussi la présentation de notre service sur le site de la Fondation Edith Seltzer. Nous avons également une page Facebook et notre adresse mail, c'est plateforme-aidant@fondationseltzer.fr.
Et au mois de mai, il y aura un autre café des aidants, c'est ça ?
Oui, du coup, il y aura un café des aidants à Gap le 2 mai et un café le jeudi 4 mai à Pont-du-Fossé autour des relations avec les professionnels. Sans oublier qu'il y a également un café qui se déroule à Serres le 3e jeudi de chaque mois.
Et à chaque fois, il y a une thématique différente.
Oui, tout à fait. Vous pouvez les retrouver ou en venant à la plateforme où je peux vous délivrer un flyer avec les dates et les thématiques ou regarder sur le site internet. On est situé rue Capitaine de Bresson, du coup entre la rue Carnot et le boulevard Georges Pompidou.
Louaï Barakat a fui la Syrie et expose ses photos d'Alep sur nos murs.
C'est probablement la rencontre la plus marquante et la plus glaçante de l'année qui s'est achevée. Jeune reporter syrien, actuellement à Manosque où il est hébergé par le CADA avec sa famille, Louaï Barakat a vécu l'enfer à Alep, sa ville, pendant plusieurs années. La guerre civile, l'occupation de Daesh, le siège de la ville, les privations et les bombardements pour tous et pour lui, la prison et la torture plusieurs fois, avec le départ fin 2016 d'une ville en ruine. Avec nos amis des Nuits photographiques de Pierre Vert qui ont réalisé de beaux tirages de ces images terribles et paradoxalement réussies techniquement parlant, ce sont une vingtaine de clichés qui sont accrochés sur nos murs et nous interpellent. Le vernissage très particulier et émouvant a eu lieu le 16 décembre dernier, un an jour pour jour, après le début de l'évacuation d'Alep. Retrouvons Louaï, un homme debout et qui veut témoigner de l'horreur de la guerre et des ravages pour la population civile.
Louaï a photographié sa ville Alep, cité martyre de Syrie.
Jeune photographe freelance, Louaï Barakat est aujourd'hui demandeur d'asile hébergé avec sa famille au Kada de Manosque. Il a quitté la Syrie après avoir vécu la guerre, l'occupation de sa ville par Daesh, le siège d'Alep, ses privations et ses bombardements meurtriers. Mais dans ce chaos, il a voulu vivre debout, ses appareils à la main pour témoigner. Plus tard, plus loin de ce quotidien difficilement imaginable. Depuis 6 ans, c'est la guerre civile en Syrie, durement réprimée par un régime sanguinaire et aveugle, soutenu notamment par la Russie, avec aussi l'émergence de l'État islamique puis Daesh et son occupation par la force et la terreur d'un vaste territoire. Une coalition internationale dépassée par la violence et la complexité du conflit et au milieu, à Alep, une population syrienne affamée, bombardée, terrorisée, décimée. C'est cette population au centre de l'apocalypse dont témoigne aujourd'hui Louaï Barakat. Plusieurs fois emprisonné, autant de fois torturé, il a subsisté comme ses concitoyens d'Alep au jour le jour, et s'il a survécu à l'enfer, aujourd'hui, il témoigne avec ses clichés de cette folie humaine qui a mis à terre Alep, la capitale économique du pays comptant près de 3 millions d'habitants. La faim, les ruines, la mort à chaque coin de rue à cause des snipers, la loi islamique, les prisons, les bombardements, le sang et les larmes qui coulent pour tous, hommes, combattants ou non, femmes et enfants. C'est après un bombardement au chlore qui a blessé son fils que Louaï a pris la décision de quitter Alep et de risquer sa vie et celle des siens dans la clandestinité. Dans ses maigres bagages, son appareil photo et un disque dur avec des centaines de clichés et des films de ce que fut la vie quotidienne ces dernières années à Alep. Je vous propose d'écouter le témoignage poignant de Louaï Barakat, photographe professionnel syrien de 23 ans, en remerciant pour leur aide Solène, Redouane et James. Je vous précise aussi que grâce au soutien technique sans faille de nos amis des Nuits photographiques de Pierre Vert, nous exposons les photos de Louaï dans nos studios pendant cette période particulière de Noël pour ne pas oublier le peuple syrien qui souffre. L'exposition restera accrochée jusqu'à la fin janvier 2018. Tous nos auditeurs sont invités à la visiter durant cette période.
Louaï Barakat, vous êtes actuellement hébergé au Kada à Manosque. Quelle est votre situation actuelle et comment se passe votre vie ici ?
Je suis hébergé avec ma femme et mes deux enfants au Kada de Manosque et notre demande d'asile est en cours. Ma vie à Manosque est simple. Je vais régulièrement au Kada pour suivre les démarches administratives. Je passe également beaucoup de temps avec ma famille. Nous avons eu notre deuxième enfant récemment et cela m'occupe beaucoup. Ici, nous sommes en sécurité. Il n'y a pas de risque. Je n'ai plus peur pour ma famille et moi-même. Pour l'instant, je ne suis pas autorisé à travailler, mais je garde contact avec des confrères en Syrie et en Angleterre. La guerre nous a beaucoup éprouvés. Le calme de Manosque me permet de me reposer.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à Manosque ?
En juillet 2016, j'ai été blessé lors d'un bombardement. J'ai reçu plusieurs éclats d'obus dans le crâne. Un mois plus tard, mon logement a été bombardé avec les barils de chlore alors que nous y étions. Mon fils a inhalé ces produits toxiques. C'est à la suite de ces événements que j'ai pris la décision de quitter Alep et de tenter une évacuation. Ma famille et moi-même avons été évacués de la ville grâce à l'association ATTA. Cela nous a pris quelque temps puisque les routes étaient toutes fermées. Dès l'ouverture de celle-ci, nous avons pu être évacués. Sortir d'Alep est très dangereux. Il y a beaucoup de snipers et de bombardements contre les civils. Cette route a été surnommée depuis la route de la mort. Suite à notre évacuation, nous avons pu rester plusieurs jours chez des amis à environ 80 km d'Alep. Nos amis nous ont alors conduits à la frontière turque. Là, nous avons payé un passeur kurde syrien, 1 500 $, pour passer en Turquie. Une fois ma famille en sécurité en Turquie, je suis retourné en Syrie une 12 jours afin de recueillir un maximum de témoignages de civils et prendre des photos des exactions commises par le régime. En Turquie, je suis allé dans un premier temps à l'ambassade britannique où notre demande d'asile a été refusée, puis à l'ambassade de France qui, elle, l'a acceptée. Environ 2 mois après notre demande, nous avons quitté la Turquie pour Marseille. Nous sommes restés 1,5 mois dans un hôtel payé par l'OFI, puis nous avons été transférés à Manosque où je réside maintenant avec ma famille.
Quelles étaient vos activités à Alep avant la guerre ?
Je travaillais comme comptable avec mon père et je suivais des études à l'université en économie et en commerce. À cette époque, la photographie était un loisir pour moi.
Comment est-ce que vous êtes devenu journaliste ensuite et reporter ?
Quand la guerre a débuté, des journalistes étrangers proposaient des formations en journalisme. À la fin de la formation, je suis entré en contact avec des journalistes anglais, dont l'agence Image Lives, avec laquelle je travaille toujours. C'est ainsi que j'ai commencé à photographier la guerre en Syrie et le siège d'Alep où je vivais.
Comment se passait la vie quotidienne pour les civils à Alep ?
Il n'y avait plus rien à Alep. Le minimum qui permet de vivre était difficilement accessible. Il n'y avait ni nourriture, ni eau. Petit à petit, les conditions de vie se sont aggravées. Il était de plus en plus difficile de faire entrer de la nourriture et de l'eau. Les gens mouraient de faim. C'était une façon pour le régime de nous pousser à nous rendre. Je cherchais constamment du lait pour mon premier enfant. Il m'était impossible de mettre ma famille en sécurité. Les routes étaient bombardées par les avions russes en permanence. Les hôpitaux aussi. Nous manquions de médecins, de places pour les blessés. Je n'oublierai jamais ces scènes après les bombardements. Tout ce sang, les blessés et les morts qui jonchaient les rues. C'était une guerre mondiale sur un tout petit bout de terre. Malgré les conditions de vie très difficiles, les équipes de protection civile ont toujours été présentes et ont travaillé sans relâche pour sauver des vies et protéger les civils. Ils distribuaient régulièrement des brochures pour informer la population sur la manière de se protéger en temps de guerre. J'ai été blessé plusieurs fois lors de mes sorties pour documenter les bombardements quotidiens. Cette guerre est folle. Elle s'acharne sur un peuple désarmé qui n'a aucun droit.
Vous avez été arrêté plusieurs fois en Syrie. Comment votre engagement contre le pouvoir en place a-t-il débuté ?
Quand la révolution a commencé, j'ai participé à des manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. J'ai été arrêté et emprisonné 3 fois. La première fois pendant 15 jours, la deuxième pendant 1 mois, puis 9 mois après ma dernière arrestation. J'ai été torturé, brûlé avec des cigarettes et du charbon à narguilé. J'ai été suspendu au plafond, puis battu avec des cordes et des couteaux. J'ai plusieurs fois souhaité mourir pour échapper à mes geôliers. Nous avions à peine de quoi survivre. 2 repas par jour, le matin et le soir. La ration se résumait à un morceau de tomate au petit déjeuner et un morceau de pomme de terre le soir. Durant la détention, 2 personnes sont mortes. Nous étions 92 personnes dans une cellule sans fenêtre, au sous-sol, avec la lumière allumée toute la journée. Nous étions des fantômes. Je déteste les prisons. Je déteste toutes les cages. Je déteste les ténèbres. J'ai été libéré lors d'un échange de prisonniers entre le régime et l'opposition. Lorsque j'étais en prison, mes parents pensaient que j'étais mort.
Est-ce que vous avez des difficultés particulières en France ?
Le seul problème est la langue. J'essaie, mais le français est une langue très difficile.
Loï, vous souhaitez rester en France ?
Oui, je veux rester en France, mais je souhaite avant tout que la Syrie soit libre, sans un régime d'oppression qui s'en prend à son propre peuple. Je n'oublierai jamais que la France m'a aidé et je lui dois tout mon respect pour ça. Peut-être que je rentrerai un jour, mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. La Syrie et les autres pays arabes sont trop corrompus. Je resterai donc en France.
Loï, quand vous avez fui la Syrie, bien sûr, vous avez mis votre famille en sécurité, mais dans vos bagages, si l'on peut parler de bagages, il y avait des appareils photo, boîtiers et objectifs. Ça veut dire que vous voulez travailler encore en tant que photographe ?
Je travaille seul depuis 2008 et je considère mon appareil photo comme mon troisième enfant. C'est mon outil de travail qui me permet de gagner de l'argent pour faire vivre ma famille. J'ai débuté avec un appareil modeste, puis j'ai écrit des articles en arabe qui m'ont été payés maintenant. J'ai un Canon 5D Mark. Il m'a coûté cher mon nouvel appareil photo et j'ai fait des sacrifices pour l'acheter. En fait, j'ai travaillé 18 mois pour l'avoir. Personne ne m'a aidé pour acheter mon matériel photo et vidéo. Cet appareil, c'est un ami qui ne doit pas rester seul. Après tout, ce que j'ai vécu en Syrie, la prison, la torture, les blessures et la faim, je ne ressens rien. Je n'ai plus de sentiments. Je sais juste que je suis en sécurité. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite.
Loi, si je vous dis le mot demain, ça signifie quoi pour vous ?
Et demain, mon rêve, c'est d'abord d'avoir des papiers français, un passeport et partir dans tous les pays où il y a la guerre pour témoigner de ce que j'ai vécu à Alep et de ce que je vois avec mes photos.
C'est probablement l'événement sportif de l'année, le Tour de France 2017 a passé 3 jours dans les Alpes du Sud.
Et le spectacle fut à la hauteur de toutes les attentes. L'arrivée victorieuse de Warren Barguil à l'Izoard restera parmi les temps forts de cette grande boucle. Et avec lui, les performances des Froome, Bardet, Harou, etc. Le Tour, c'est aussi toute une ambiance. Nos collègues briançonnaises l'ont vécu avec enthousiasme. Et d'abord à Serre Chevalier, où elles ont pu interviewer bon nombre d'officiels. C'était le 19 juillet dans les Hautes-Alpes.
Le Tour de France à Serre Chevalier, des champions, des élus et un président. Journée exceptionnelle et historique hier dans le Briançonnais avec l'arrivée de la 17e étape du Tour de France à Serre Chevalier. La course a tenu toutes ses promesses avec une prestation flamboyante du Slovène Primoz Roglic qui l'emporte en solitaire à Serre. Petite déconvenue pour Romain Bradé, mais il reste très bien placé et aujourd'hui le col de l'Izoard pourrait lui donner sa chance. Le champion d'Italie Fabio Harou, lui, a perdu de précieuses secondes et Rigoberto Urán est deuxième au classement général derrière Chris Froome qui ne laisse rien ni personne passer. La bagarre des costauds aujourd'hui sera décisive. À noter aussi le panache de Contador qui s'il n'a pas plus sa forme passée a quand même de beaux restes. Enfin, hier, on a vécu les abandons de Thibaut Pinot et surtout Marcel Christel qui laisse son maillot vert à Michael Matthews, un homme en forme. Mais avec l'épreuve sportive, le Tour, c'est également une ambiance populaire unique et la visite cette année d'Emmanuel Macron en terre haut alpine a complété le tableau avantageusement. Je vous propose de revenir sur l'arrivée d'hier à Serre Chevalier, où nos collègues de Briançon, Susanna Wright et Laura Giraud, ont interviewé plusieurs personnalités. Les interviews des coureurs et champions suivront demain. Pour l'instant, écoutons le député Joël Giraud évoquer les atouts des Hautes-Alpes et l'aspect économique du sport, le maire de Briançon, Gérard Fromme, qui a su mobiliser ses collègues élus pour l'événement, une mobilisation que salue et à laquelle il a participé, le président du conseil départemental, Jean-Marie Bernard, répond aussi à nos questions. Et enfin, nous entendrons le chef de l'État, Emmanuel Macron, ravi de son étape aux Alpines. Mais d'abord, Jean-Marie Bernard pour le département des Hautes-Alpes. Jean-Marie Bernard, que pensez-vous de cet bel événement aujourd'hui dans les Hautes-Alpes ?
C'est la conclusion d'un travail depuis bientôt un an, avec la ASO, avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour, avec qui on échange régulièrement, parce que le Tour de France n'était pas venu depuis 2 ans dans les Hautes-Alpes. Donc l'année dernière, on lui a fait des propositions, venir dans le nord du département, venir à Briançon, venir faire des grands cols. C'est tous mis autour de la table avec le maire de Briançon, le président de la Comcom, des maires de la Vallée Serre-Chevalier, des maires et la Comcom du Quérin, et tout ça pour avec le concours financier de toutes ces collectivités, pour pouvoir accueillir le Tour de France dans des conditions un peu exceptionnelles.
Toujours sur le Tour de France avec Joël Giraud, que pensez-vous de cet événement pour notre région, le Tour de France aujourd'hui?
Bah écoutez, déjà l'autre jour, l'étape du Tour avec ses 16 000 coureurs qui sont des amateurs venus du monde entier, qui ont fait d'ailleurs une épreuve très dure. J'ai vu que certains d'ailleurs ont fait comme je l'aurais fait, c'est-à-dire ont terminé au pied du col et sont venus, j'en ai trouvé pas mal à l'Argentière le soir, qui essayaient de trouver à boire et à manger. Donc déjà ça, c'était très bien parce que ça amène une notoriété importante, notamment pour les sports de pleine nature, et le vélo en fait partie. Et aujourd'hui, j'allais dire, ce sont les épreuves reines avec les étapes qui vont vraiment marquer le Tour. Aujourd'hui, c'est arrivé à Serre Chevalier après le Galibier, qui est quand même un des grands gardiens du Tour, mais également demain Briançon-Izoard, et puis quelque chose de peut-être plus cool, mais qui va se faire aussi dans de bonnes conditions entre Embrun et plus au sud, en région provençale Côte d'Azur. Et ben, c'est 3 jours de folie, c'est 3 jours de notoriété du département, est vraiment marqué. C'est 3 jours où on entend parler des Hautes-Alpes, et c'est 3 jours qui font que, se situant plutôt en début d'été, nous avons la plus grande chance d'avoir nos amis touristes qui restent encore plus longtemps. Surtout que j'en suis sûr, il y aura un bel automne. Vous voyez, je fais même de la publicité sur votre antenne. En tout cas, nous sommes tous très heureux. Et l'arrivée aujourd'hui du président de la République, bah, c'est là aussi mettre un peu un coup de projecteur sur les Hautes-Alpes de la part du président de la République. Et j'apprécie beaucoup qu'il ait accepté cette invitation sur cette étape. Je l'ai accompagné jusqu'à Chambéry. Nous nous sommes quittés à Chambéry. Il est donc monté dans les voitures du Tour. Moi, un petit saut de puce et en hélico, je suis arrivé ici. Mais ça sera une belle fête de voir le chef de l'État aujourd'hui, président de la République Emmanuel Macron, qui aime beaucoup ce sport, je le sais. J'irai profiter non seulement du soleil des Hautes-Alpes, parce qu'en Savoie, il faisait beaucoup moins beau, c'est bien connu. Mais c'est vrai, en plus, je ne mens même pas. Mais également profiter de ce merveilleux monde du sport qui, pour nous, est une activité économique. Vous savez, quand il y a les championnats de France de kayak à l'Argentière, quand il y a des mondiaux d'escalade à Briançon, quand il y a le Tour de France, c'est une activité économique. C'est pas seulement du sport pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il faut que tous les élus répondent présents et soient solidaires autour de ces événements.
Bonjour Monsieur Macron, bienvenue dans notre région.
Merci. Vous allez bien?
Oui, merci. Monsieur Macron, que pensez-vous de cet événement?
Magnifique étape.
Gérard Fromm, maire de Briançon, très bel événement aujourd'hui, non?
Magnifique, magnifique. Alors, Tour de France aujourd'hui arrive ici à Villeneuve. Demain, il part de Briançon. Il revient à Briançon en étant passé par le col de l'Isère. Et on a eu en plus l'étape du Tour où il y a eu quasiment 13 000 coureurs qui sont venus à Briançon.
Et après les élus, les vedettes du reportage qui suit sont bien les coureurs. Entre-temps et après l'Izoard et la descente à travers les Alpes de Haute-Provence, le Tour s'est conclu sur une victoire de Chris Froome. Susanna Wright et Laura Giraud ont tendu leur micro aux cyclistes pour un moment de radio exceptionnel. Les stars du vélo, mais aussi un soutien d'une équipe Cofidis en souffrance cette année et une ancienne gloire du cyclisme toujours accro à la grande boucle.
Tour de France 2017, des champions dans les Alpes du Sud. C'est fini, Christopher Froome remporte son 4e Tour de France devant Rigoberto Urán, qui n'aura pas brillé par ses initiatives mais par sa constance qui a payé. Romain Bardet, lui, est à la 3e marche du podium, cependant il a gagné le cœur des Français. Regrettons seulement les sifflets lamentables qui ont accompagné le départ de Froome au Vélodrome. Il faudra un jour expliquer ce qu'est vraiment le sport au public marseillais notamment. Revenons aujourd'hui sur ces jours de folie vécus dans les Alpes du Sud. Si la Grande Boucle n'a fait que traverser le 04 vendredi, elle aura passé 3 jours dans les Hautes-Alpes et des moments historiques comme cette arrivée au sommet de l'Izoard avec un fantastique Warren Barguil ou bien encore la venue d'Emmanuel Macron à Serre Chevalier. Nos collègues Susanna Wright et Laura Giraud ont fourni plusieurs reportages sur ces journées qu'elles ont suivies au sein de la caravane aux arrivées d'étape et dans le pool press. Les vedettes du Tour sont bien sûr les champions et nous allons les retrouver dans ce reportage réalisé à l'Izoard. Profitant de la maîtrise de la langue de Shakespeare par Susanna et avec la complicité de Jérôme pour la traduction, nous entendrons le maillot vert Michael Matthews, irréprochable pendant ces 3 semaines, et Simon Yates, magnifique maillot blanc et meilleur jeune de cette édition. Nous entendrons aussi Chris Froome qui, lui, se satisfait tout à fait de la couleur du sien, évidemment. Et bien sûr, l'interview de Warren Barguil, le héros de l'Izoard, qui s'est révélé sur cette épreuve et qui rappelle ses périodes de doute et de rééducation physique après 2 accidents en 2016 et en début d'année. Nous entendrons aussi une ancienne gloire du cyclisme. Stéphane Roche évoque les Hautes-Alpes et le Tour 87, une année faste pour lui, qu'il a remporté juste après le Tour d'Italie et il fut aussi champion du monde cette même année. Exceptionnel. Mais avant d'écouter ces formidables coureurs, Laura Giraud a interviewé un de ces hommes du peloton qui font aussi le spectacle et qui portent leur leader parfois dans l'anonymat mais toujours dans la souffrance des étapes comme celle de l'Izoard. Florian Sénéchal de l'équipe Cofidis, comme tous ses coéquipiers, a tout fait pour que Nasser Bouhanni signe une belle prestation. Avec un salut admiratif à tous ces champions que vous allez entendre. Et avant de leur donner la parole, cette première interview est comme un hommage aux forçats de la route, moins médiatiques mais tout aussi méritants que les stars du vélo. Plongeons maintenant dans l'ambiance de l'arrivée du col d'Izoard.
Difficile étape, l'une des plus dures sur le papier du Tour de France. Après le Télégraphe, après le Galibier, après la Croix de Fer. Ah, Serge Chevalier dans le département des Hautes-Alpes.
Florian Sénéchal, une petite présentation ?
Oui, bon, je m'appelle Sénéchal Florian, j'ai 24 ans, je suis natif de Cambrai dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis cycliste professionnel au sein de l'équipe Cofidis, je suis sur le Tour de France actuellement et j'ai vécu une journée très très difficile, mais je suis arrivé à bout de cette étape dantesque.
Comment était ce parcours, cette étape?
Moi je suis plus rouleur, roudeur, sprinter, et aujourd'hui c'était vraiment que pour les grimpeurs, donc c'était très dur. Et on est resté avec notre leader, Nasser Bouhanni, qui était dans un mauvais jour, et on est resté à l'arrière. Et on a roulé toute la journée, on était toujours presque à bloc, et on a vraiment mis toutes nos énergies pour aller rattraper le peloton devant nous, et finir dans les temps.
On voit que vous avez l'air épuisé.
Oui, là, c'est dur, c'est la troisième semaine, c'est la 17e étape, ça fait 17 jours qu'on est à bloc. Donc, la fatigue, elle est là, il reste encore 4 étapes, on va dire 3, parce que Paris, c'est pas une étape, c'est du plaisir. On a fait une des plus dures, on va peut-être voir la plus dure du tour aujourd'hui, donc on est content et on reste mobilisés tous ensemble, les camarades de l'équipe et le staff.
Comment voyez-vous la suite ?
Suite, avec une, pourquoi pas une victoire de notre leader Nasser à Paris. Ce serait la meilleure chose pour l'équipe vu qu'elle fait beaucoup pour lui et on investit beaucoup de choses pour lui. Donc ce serait vraiment bien pour le cœur, pour le moral, pour tout. Quoi.
Vous êtes arrivé combien ?
Je sais que je suis loin en général. Je vise pas le classement général. Moi, je suis plus sur les classiques comme Paris-Roubaix. Donc là, je suis ici pour aider Nasser sur les sprints, pour le lancer. Aujourd'hui, c'était plus une journée à s'accrocher.
Steven Roche, bienvenue dans notre belle région. Première fois ici?
Non, j'étais venu ici plusieurs fois. Et j'ai même passé il y a quelques semaines parce que, en fait, en 87, vous êtes peut-être trop jeune, j'ai gagné le Tour de France et on est passé dans le coin. Donc, il y a 3 semaines, on a fait un petit voyage, retour dans le passé, et on a refait l'étape, la Galibier, Télégraphe, Saint-Jean-de-Maurienne, qui arrive à la Plagne. Donc, je connais un peu la région.
Et ça fait quoi de revenir? Ça a changé beaucoup depuis votre époque?
On a l'impression que l'école est un peu plus pointue. Parce que c'est vrai que il y a 30 ans, on était plus fit. Et puis l'école, on grimpait un peu mieux. Et là, maintenant, on n'a pas la condition. Mais on a voulu faire un peu célébrer les 30 ans, donc en faisant une étape de Tour de France 87. Donc on a choisi l'étape avec les billets et Télégraphe, qui était quand même une étape très difficile. Et puis même, je veux dire, une autre chose, j'étais venu ici, mon premier, quand je me suis marié, je suis venu ici en ski.
Hi Simon, local radio, fréquence mystère. How was your race today then? Comment s'est déroulée la course aujourd'hui pour vous?
Yeah, it was okay. I had much better legs than yesterday. And I gave everything in the final, so I think I have to be happy.
Oui, c'était ok. J'étais en meilleure forme qu'hier et j'ai tout donné sur la dernière ligne droite. Et je suis très content.
Okay, and you've got the white jersey. That must feel good, no?
Et vous avez aussi le maillot blanc pour l'instant.
Ah, we're not at Paris yet.
Yeah, no, I still have yet, you know, I'm hoping, fingers crossed.
Yeah. I'm more confident now that I will be able to keep it, but for sure we still need to be careful. There's some difficult stages coming up and we never know, you know, what's going to happen. So I think until I'm standing on the podium in Paris, then we have to be careful.
Nous ne sommes pas encore à Paris, mais je suis confiant et je peux le garder pour la suite, mais je dois rester prudent car il y a d'autres étapes difficiles à venir et on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Okay, and what do you think of our lovely region? Have you been here before?
Et que pensez-vous de notre belle région? Êtes-vous déjà venu ici?
Yeah, I've spent some good time here. Yeah, I really like it. It's a beautiful place and I've done a lot of training here too and yeah, it's one of the most beautiful places that I've trained.
Oui, j'ai passé des super bons moments ici. J'adore, c'est trop beau. Je suis venu m'entraîner ici. Il n'y a pas de lieu plus joli pour faire cela.
Chris, est-ce que vous avez fait le plus difficile dans ce Tour de France?
Oui, à mon avis, oui. On a passé les Pyrénées, on a passé les Alpes. Je suis très content de rester en jeûne maintenant. Oui, on attend le contre-la-montre maintenant à Marseille.
Pas de victoire d'étape pour vous pour l'instant, c'est un petit peu frustrant.
J'ai le maillot.
Michael Matthews, how was the race today? Comment s'est déroulée la course pour vous aujourd'hui?
It was a really hard one. I didn't have the best legs today after I think the big day in the breakaway yesterday. And yeah, I just did what I could to try and support Warren, but yeah, it wasn't very much. I think it was more just being on his wheel to make sure he didn't have to fight for position. And yeah, I think me and the boys put him at the position at the bottom of the first climb, and yeah, he did his thing.
C'était très difficile aujourd'hui. Mes jambes n'étaient pas en très grande forme après la grande journée d'hier, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour soutenir Warren. C'était pas grand chose, mais c'était surtout pour qu'il garde sa place.
So, next two days, how's it gonna go? Donc, pour les prochains jours à venir, à la fin de course.
I think tomorrow is going to be very long with 220k. It's going to be, I think, very boring. But yeah, we got two jerseys and four stage wins, so I think we'll do the whole stage with a smile on our face.
Je crois que demain ce serait une très longue journée avec 220 km. Je crois que ça sera ennuyeux, mais on a deux maillots et on le fera avec un grand sourire.
And what do you think of our region with the local radio here? Et que pensez-vous de notre région ici dans les Hautes-Alpes?
Today was a very beautiful race with those lakes and the valleys. It was magical. As much as my legs were killing me, it was a very nice scenery and you're very lucky around here.
Aujourd'hui, c'était très beau avec les vallées et les lacs, c'était magnifique, même si mes jambes me faisaient souffrir, et vous avez vraiment de la chance de vivre ici.
Warren, au moment de passer la ligne, dis-nous ce que tu as ressenti.
Ouais, beaucoup d'émotions. J'ai pensé à mes grands-parents qui sont décédés et ouais, ça m'a fait drôle de pouvoir savourer cette victoire et de se dire qu'il y a quelques semaines j'étais ici en entraînement et pouvoir passer en premier cette montée. Ouais, j'ai toujours du mal à y croire. Pour moi, c'est un tour. Ouais, j'aurais jamais pensé. Je suis sur notre planète là. Je suis même pas sur la Terre. Je sais même pas où je suis. Je vis vraiment un rêve quoi.
Vous voulez le faire avec la manière aujourd'hui.
Je voulais déjà assurer mon maillot à poids, c'est surtout ça. Mais aller gagner, j'aurais jamais pensé pouvoir gagner aujourd'hui. Et ouais, le faire, c'est exceptionnel.
Gagner à l'Izoard, ça lui donne plus de cachet à cette victoire.
Ouais, une victoire, ça reste une victoire. Mais ouais, c'est sûr, gagner en haut d'un grand sommet comme ça, c'est exceptionnel. Il y avait 40 points à aller chercher en haut, je les ai cherchés. Donc je pense que c'est bon, ouais. J'ai mon maillot et je pense que je le mérite amplement.
Warren, tu vas le porter sur les Champs-Élysées.
Ouais, puis je pense que je vais le porter même chez moi, je pense. Je suis tellement content de l'avoir que ouais, je vais le porter sur les champs. J'espère que tout va bien se passer demain et au chrono. Et ouais, j'ai juste besoin de ça et de penser. Ouais. Et de vraiment savourer.
Si tu reviens un mois et demi en arrière, par rapport à ce que tu vis là, tu aurais jamais pensé à
ça. Non, j'aurais jamais pensé à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et que je dédie aussi cette victoire-là, parce que il y a ma compagne qui m'a toujours soutenu, même quand ça allait pas. Et ouais, il y a quelques mois de ça, ça allait vraiment pas et j'aurais jamais pensé être au départ du tour. Il y a aussi mon entraîneur qui m'a toujours dit que ça allait le faire pour le départ du tour. Il a cru en moi et ouais, je les remercie fortement.
Warren, aujourd'hui t'es 9e. Est-ce que pour le futur, tu te dis, bah voilà, pourquoi pas revenir sur ce tour et jouer le classement général?
Ouais, avec les jambes que j'ai en ce moment, si je reviens au tour l'année prochaine avec les mêmes jambes, ouais, je pense que jouer le général c'est possible. Après, de là les gagner, pour moi c'est il y a encore une grosse marche, mais faire dans les 5 premiers, j'ai toujours dit que c'est un objectif que je voudrais faire. Et on va pas griller les étapes, on va savourer déjà le moment présent et puis on parlera de l'année prochaine en temps voulu.
Demain, nous continuons la rétro ?
Oui, c'est la suite et la fin de notre rétro de l'année 2017 avec la montée en puissance de la fibre optique à Sisteron. Également, une table ronde importante sur l'accès aux soins et la désertification médicale, c'était à Digne. Et puis, nous reviendrons aussi sur la marche du droit d'asile dans les Hautes-Alpes. Nous parlerons du soutien économique de la région. Oui, nous reviendrons sur la visite en juin dernier de Nicolas Hulot. C'était à Mannes et Fort-Calquier. Et puis, juste une information avant de finir ce journal, Evan, notre appel à la prudence en ce qui concerne les avalanches en ce moment. Vous savez, il y a eu de grosses chutes de neige. Les conditions sont hélas très favorables à des coulées de neige et à des avalanches. Donc prudence si vous allez en montagne et même carrément, n'allez pas en montagne. Je ne sais pas ce qu'il y a à la télé. Par contre, je sais ce qu'il y a à la radio. Donc vous pouvez rester chez vous, écouter la radio, ça oui, ou regarder la télévision si vous voulez, mais évitez les sorties, notamment le hors-piste aujourd'hui, avec ce danger, un danger 5 sur 5, nous ont dit nos collègues de Briançon aujourd'hui, où la neige est tombée en abondance. Donc prudence, et ne gâchez pas vos vacances bêtement pour pouvoir partir à l'aventure. Attendez peut-être demain, le calme sera peut-être, je l'espère en tout cas, revenu. Prudence donc, les avalanches, danger 5 sur 5, et hélas, aujourd'hui. Voilà, c'est la fin du journal. Merci beaucoup, Evan, pour la régie. Bonne journée à tous, à demain.
Merci François, une bonne journée à tous sur Fréquence Mistral. À demain.